franceinter.fr.
Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
Historien, médiéviste, vous avez été élu l'an dernier professeur au Collège de France à la chaire de l'histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle. Vous êtes l'auteur de Conjurer la peur, Sienne 1338, ce qui nous paraît très très éloigné, mais pas tant que ça quand vous expliquez que le gouvernement des neuf qui dirigeait Sienne au XIVe siècle et qui se voulait pourtant être l'expression du peuple, avait choisi systématiquement de porter secours à l'oligarchie financière et bancaire, aggravant l'endettement public, mais cet endettement faisait précisément la fortune des banques. C'est cela, Patrick Boucheron, le rôle de l'historien, se saisir du passé pour nous parler de ce qui se passe aujourd'hui?
En tout cas, c'est de ne pas, lorsqu'il toque à notre porte, de l'accueillir. Parce qu'au fond, les historiens, ils ne travaillent pas sur le passé, ils travaillent sur l'aujourd'hui. Il n'y a que ça qui m'intéresse, comme vous tous, j'imagine. Simplement, je sais, nous savons que l'aujourd'hui, notre contemporain, ce n'est rien d'autre que du passé accumulé. Et il y a des passés très anciens qui font retour. Vous savez, l'histoire, c'est rien d'autre que des histoires de fantômes pour grandes personnes. Voilà, il y a des choses qui reviennent. Et quand elles reviennent, il faut savoir les accueillir ou les récuser.
Alors, comment vous procédez pour les accueillir ou pour les récuser? Comment vous faites pour vous méfier des analogies faciles?
Eh bien, d'abord, en travaillant, voilà, déjà en travaillant. Ça paraît idiot, mais il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que les historiens adressent à la société un discours engagé et savant. Et engagé parce que savant. Il y a du travail, il y a de l'enquête, c'est minutieux, c'est lent, on n'a pas réponse à tout. Et donc, dès lors, ça impose un autre tempo. Ce qui est important à dire, évidemment, dans un cadre comme le nôtre ce matin, parce que les historiens, s'ils peuvent assumer, je dirais, une parole publique, c'est en tant qu'elle est articulée à un savoir patient. Et cette question du temps, pour moi, elle est essentielle. Parce que, au fond, pour sortir de l'arrogance du présent, pour tenter de ne pas être dominé par des usages incontrôlés de l'histoire, moi, je suis médiéviste. Je ne pouvais pas imaginer que ce que j'avais appris sur le califat ou sur la croisade serait d'une quelconque utilité un jour où d'autres mal intentionnés se s'empareraient de ces mots pour les faire en faire un usage guerrier.
Alors, j'arrête une seconde ou quelques minutes, pardon, la théorie sur l'histoire. Qu'est-ce que ça vous a appris sur ce que nous vivons aujourd'hui, vos études sur les croisades et le califat, Patrick Boucheron?
Ça m'a appris quelque chose de simple, c'est que rien n'est écrit, rien n'est inéluctable, tout est toujours possible et que l'histoire, elle est riche des expériences accumulées du passé. Elle ne trace pas de chemin, elle ne donne pas de leçons, sauf une, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de leçons à recevoir du passé. Mais des encouragements, mais peut-être une ressource d'intelligibilité, pourquoi pas réassurance dans l'idée de progrès, si tant est qu'on la complique, cette idée de progrès. Elle n'est pas univoque. La modernité, elle n'a pas été seulement donnée comme un privilège exorbitant à l'Europe. Et donc, dès lors, élargir son regard, c'est ça que ça apprend, hein, tout simplement. Ouvrir des perspectives et, d'une certaine manière, désorienter nos certitudes.
Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pensent que tout a changé depuis, disons, une vingtaine d'années, notamment à cause de la révolution numérique qui a bouleversé notre usage du temps, notre rapport au temps, nos sociétés, nos liens sociaux, notre rapport à la connaissance, à la démocratie qui a modifié la diffusion de l'information, mais aussi la diffusion des peurs et des menaces? Est-ce que l'historien que vous êtes peut entendre l'idée que l'époque que nous vivons ne ressemble à aucune autre?
Mais bien sûr, c'est même son métier que de considérer en quoi le présent diffère d'hier. Et le métier de l'historien, ce n'est pas toujours d'être le rabat-joie des enthousiastes qui disent que tout change, et lui va dire « mais non, rien de nouveau sous le soleil ». C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est la science du changement social. Et dès lors, elle peut reconnaître que ce changement peut s'accélérer. Et les raisons que vous dites sont parmi celles qui l'accélèrent aujourd'hui. Mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi évidemment le changement climatique, la conscience mondiale de la nécessité d'y faire face. Il y a évidemment une conscience nouvelle et au fond encourageante que il n'y a qu'une Terre et donc il n'y a qu'une histoire de l'humanité et que nous en sommes redevables. Voilà. Et donc tout cela, ça crée des conditions qui sont les conditions d'un nouveau changement social.
Il y a un peu moins d'un an, après les attentats de Charlie, vous avez co-signé un livre qui s'appelait « Prendre date ».
Avec Mathieu Riboulet, oui, un écrivain.
Quelle en était l'idée? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de faire ça, justement, dans un temps assez court, après ce que vous avez dû considérer, j'imagine, comme un événement historique, même avec le...
Oui, c'était un événement historique et on reconnaît un événement en ceci que très vite il est recouvert par les discours qui bientôt l'obscurcissent. Et alors, l'écriture, parce qu'il est écrivain, je suis historien, mais on faisait juste acte d'humanité, consiste à, je crois, percer cette gangue de discours pour retrouver au fond l'état où nous étions. C'est-à-dire pour nous ramener à ce moment où nous sommes affectés directement par l'événement. C'était rien d'autre qu'une manière de ralentir un peu l'oubli quelques mois après ces événements et tenter de faire, pour prendre date, pour poser quelque chose, pour inscrire, rien d'autre qu'inscrire, faire l'histoire d'une conscience, d'un état de conscience.
Parce que, événement qui marquera une oui. génération, notre époque...
Comment
vous avez dit
le
quelque part que notre génération n'avait rien vécu de grand.
Je suis pas sûr que ça soit grand d'ailleurs ce qui nous arrive, mais en tout cas c'est d'une importance telle que ça fait une entaille dans notre vie. Voilà, c'est un pli. C'est un pli dans les consciences qu'on ne sait même pas nommer. Alors on dit de temps en temps Charlie, le 7 janvier, on oublie Liber Cacher. Maintenant c'est l'année 2015 qui devient au fond l'année monstre de ce terrible rappel à l'ordre, à nos responsabilités. Voilà. Donc tout cela crée évidemment les conditions d'une responsabilité nouvelle. Bah pour l'intellectuel, puisque c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire au fond comment poser aujourd'hui une voix d'un intellectuel, disons, spécifique, c'est-à-dire pas un spécialiste, enfin, un essayiste mercenaire des plateaux télé, mais un travailleur des sciences sociales, voilà. Et en tant que l'histoire, elle est engagée parce qu'elle est engagée dans la littérature et dans les sciences sociales.
Mais vous avez souligné il y a une minute l'obscurité des discours qui masquaient la portée de l'événement. Cette obscurité-là, elle est toujours profonde et envahissante.
Vous faisiez allusion à mes... Oui, vous parliez de mes travaux sur la crise de la civilisation communale, de l'expérience d'autogouvernement urbaine de l'Italie, 13e, 14e siècle. Elle se caractérisait d'abord par une dégradation de l'esprit public et de la langue. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est, à mon avis, très riche d'enseignements dans la façon dont les Italiens, jusqu'à Machiavel, ont pensé leur crise politique. Ils la pensaient d'abord comme une crise de la langue politique. Et ça, évidemment, ça nous rappelle des choses, parce que déjà en mai 68, on avait au fond vécu, pas moi, mais enfin en tout cas ceux qui l'ont vécu, la rapide usure en fait d'un lexique qui d'un coup ne désignait plus rien. Et au fond, cette idée machiavélienne que le mauvais gouvernement, il arrive toujours au moment où on prend un mot pour un autre. Et donc où le langage politique devient inadéquat à saisir les choses. Bien sûr que c'est ce qu'on vit. Évidemment qu'on est désorienté. Et on est désorienté parce qu'on n'a proprement plus de mots pour le dire. Alors, à la hâte, on va ramener ceux du passé, on va dire que c'est le fascisme, mais c'est pas ça l'histoire, évidemment. Elle est beaucoup plus complexe et elle doit être plus lente et patiente. C'est pour ça que je dis que c'est aussi un éloge du calme.
Dans la deuxième partie, vous nous donnerez des exemples de ce que vous appelez la démonétisation de la parole publique et politique, Patrick Boucheron.
Eh bien,
vous nous promettez, vous nous donnerez des exemples. À tout à l'heure, donc, et puis vos appels d'auditeurs à France Inter au 01 45 24 7000, les réseaux sociaux avec le mot-clé interactive. On marque une pause, évidemment, avec la revue de presse, il est 8h32.